Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie et Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, avec ce temps printanier.
Oui, c'est vrai. Il faut quand même se couvrir le soir, mais c'est vrai que pendant la journée, c'est plutôt sympathique. Alors, ça donne envie de se promener, ça donne envie de faire du vélo.
Exactement.
C'est ce que vous faites.
Voilà,
vous promenez.
Du cinéma, un petit coup de vélo pour venir à la radio.
Vous faites aussi du vélo. Vous voilà arrivé en pleine forme et vous êtes sorti quand même de votre canapé et vous avez quelques films à nous conseiller ce soir.
Oui, pour le cinéma à la télévision, de quoi passer une bonne soirée tranquillement au chaud chez soi. Donc, je conseille des films. Il y aura 4 films cette semaine pour le ciné à la télé et un conseil de lecture.
Ah, on aime quand vous conseillez la lecture.
Quand on peut éteindre tous ces écrans qui nous envahissent.
Ah là là, c'est vrai, c'est vrai.
Oh oui.
Et pourtant, on reste focalisé là-dessus. Avec nous également celui que tout le monde nous envie, toute la bande FM, bien sûr, à commencer par elle, mais aussi toutes ces admiratrices qui sont là, qui poussent des hurlements de joie quand elles le voient passer. Lui les ignore, tel un grand seigneur, vous savez de qui nous parlons, de qui je parle tout de suite. Notre mécanographe du cinématographe, dans son retour de manivelle, il passe au crible une œuvre cinématographique. Bonsoir Guillaume Sidon.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir Franck, et bonsoir à tous et à toutes.
Dites-nous, cher Guillaume.
Ah, ce soir, un bijou, un huis clos, une comédie culte où le duo Bakri-Jaoui, auteur et interprète, ont le génie de la comédie. Des places sont à gagner en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse. Je vous dis tout dans quelques minutes.
Oh, on est bien sur la voie, on est bien sur la voie. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avions eu un petit problème technique avec notre homme de loi des séries, celui qui plaide ou qui a des envolées terribles quand il est procureur. Là, ce soir, eh bien, ce sera plutôt le côté avocat, celui qui nous a manqué la semaine dernière. Et eh bien, il parlera de Alice in Borderland. Il, c'est évidemment Grégory Com dans son tribunal des séries, Alice in Borderland. Il nous en parle parce que c'est la sortie de la saison 3 déjà sur Netflix et c'est une série qui est basée sur le manga éponyme d'Azo Haro, donc vous n'êtes pas surpris qu'il intéresse Grégory Com, lui qui est un fanatique absolu de la culture nippone et de tout ce qui se passe en Asie. Et puis dans le panier de l'ouvreuse, vous retrouverez l'ouvreuse. Elle, évidemment, elle n'est pas
elle
dans
porte,
le panier,
oui,
elle porte le panier, bien sûr. Mais dans son panier, il y aura l'affiche de la semaine qu'elle va scruter avec vous, Laurent.
Oui.
Et puis, il y aura les reprises sur le grand écran et des coups de cœur, bien sûr, parce qu'on a toujours des films, des festivals, des expositions, quand il y en a qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et des reprises, eh bien, on va en parler beaucoup ce soir. Et pourquoi donc? Parce qu'il est là, il est venu nous retrouver. Lui, c'est Franck Lubé, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse, qui vient nous parler de la galaxie Jaoui, qui a pris ses quartiers au cinéma Patty Wilson, mais maintenant vous le savez, hein, puisque depuis la fermeture pour travaux de la Cinémathèque de Toulouse, elle a élu domicile au Patty Wilson pour une partie de la semaine, le début, et pour la fin de la semaine, à l'auditorium du musée des abattoirs. Bonsoir Franck Lubé.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir tout le monde.
Franck, nous allons donc parler de la galaxie Jaoui. Alors la galaxie, c'est un concept, appelons-le comme ça, que vous avez imaginé, vous, c'est un vous général.
Collectif, oui, c'est l'équipe.
Pour l'équipe de la Cinémathèque, vous avez eu l'idée de ça avec le fait que vous étiez contraint, techniquement, à cause de la fermeture de la Cinémathèque, puisqu'il y a pas mal de films que vous avez la possibilité de passer dans votre belle maison, mais qu'il est impossible de passer ailleurs. Et pour cause, il n'y a pas de projecteur, par exemple, 35, 70 mm. on ne peut pas projeter de pellicule dans les cinémas actuels.
Exactement, donc ce qui fait qu'on a été obligé de revoir un petit peu notre manière de travailler, notre manière de programmer. Donc pendant les travaux, on n'était pas en capacité de proposer le même type de programmation que l'on fait habituellement à la Cinémathèque. Et donc on est parti sur cette idée de Galaxy, donc qui était beaucoup plus facile en fait à construire uniquement à partir de copies numériques. Voilà, pour s'en rentrer dans la technique, mais donc en se passant de copies argentiques, donc 35 mm en général. Et l'idée de la Galaxy, le concept en fait, c'est de prendre un ou une cinéaste reconnu, important dans l'histoire du cinéma et de prendre trois films de ces cinéastes-là et pour chaque film proposer quatre films réalisés par quelqu'un d'autre avant, après, pour tisser des liens, lancer des ponts entre des films qui sont qui peuvent dialoguer entre eux, parce que le cinéma est un art qui dialogue énormément entre les œuvres, entre les époques, entre les différents auteurs, autrices, etc. Et donc c'était une manière de travailler l'histoire du cinéma comme on peut la travailler à la Cinémathèque, mais avec un nouvel outil qu'on a inventé pour l'occasion.
Alors, vous aviez commencé par la Galaxy Kubrick.
Ouais.
C'est vous qui aviez choisi les films de Stanley Kubrick et puis ceux qui allaient graviter autour de ces films. Cette fois-ci, avec la Galaxy Jaoui, eh bien, la réalisatrice, elle, peut mettre son grain de sel et c'est ce qu'elle a fait. Comment cela s'est-il passé avec elle?
Parce que
c'est en plus votre président.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Très simplement, c'est parce qu'en fait, comme Agnès Jaoui est la présidente, également présidente de la Cinémathèque, de l'Asso. Du coup, on s'est dit, tiens, on va lui demander, en fait, de bâtir une galaxie. Et donc, voilà, elle était partante, etc. Donc, il fallait trouver le bon créneau parce qu'elle travaille énormément. Il se trouve que là, elle sera au Capitole, à l'Opéra, pour un Don Giovanni qu'elle met en scène. Donc, du coup, les planètes vraiment s'alignaient pour la voir présente, parce qu'au départ on voulait faire ça au printemps en fait, bon, mais du coup on le fait là cet automne, et donc très simplement, et j'ai envie de dire comme toujours avec elle, et puis tellement simplement que du coup c'est très difficile de parler de sa galaxie en son nom, parce que quand même ça vient d'elle. Donc la seule chose que nous on a décidé au départ, c'était le choix de ces films. Et comme vous le savez, Agnès, elle est actrice, scénariste, réalisatrice, chanteuse, etc. Metteur en scène d'opéra, théâtre. Voilà,
elle a une carte de visite qui a la taille d'une feuille A4.
Quoi. Ouais, elle a beaucoup de, elle a beaucoup de cordes à son arc. Et donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir ce volet réalisatrice, actrice, scénariste. Et donc on a choisi, quatre films, non pas trois comme on fait habituellement, qui sont donc On connaît la chanson, Un air de famille, Ma vie, ma gueule et Le goût des autres. Et à partir de ces quatre films là, on lui a dit bon voilà Agnès, on part là-dessus. Qu'est-ce que tu construirais, qu'est-ce que tu proposerais autour. Et après ça s'est fait simplement, en gros c'était par téléphone et par SMS. Elle m'envoyait des messages, avec des titres, etc. J'ai dit attends, on va voir, parce que est-ce que ça existe en DCP, etc. Faut en copie numérique, faut trouver les films. Parce que les films sont pas toujours accessibles, etc. Et donc on l'a construit comme ça. Après, quand on regarde la galaxie, il y a des choses qui sont effectivement très
surprenantes.
Alors j'allais dire des choses d'abord qui sont qui nous paraissent vraiment très très évidentes, et puis après des choses qui sont un peu plus surprenantes. Et là, par contre, elle m'a pas vraiment je sais pas vous dire, elle m'a pas donné de détails. Par exemple, les sentiers de la gloire. Bon voilà, c'est pas quelque chose que j'associe spécialement à son univers et à son écriture cinématographique, à son cinéma. Je trouve pas très bien l'entrée. Mais Agnès, voilà, elle m'a dit, bon, ben, non, mais c'est bon, tu vas te débrouiller, tu sais le faire.
Mais on sait que vous êtes très débrouillard. Voilà,
oui, mais bon, mais
Franck
après, oui, mais je suis quand même pas dans sa tête non plus.
Elle veut marcher sur les sentiers de la gloire.
Alors peut-être, oui, peut-être c'est ça. Donc, voilà, le reste était un peu plus, le reste est même beaucoup plus évident. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment en résonance avec son cinéma, ce qu'elle aime du cinéma, son rapport aussi, à la société, etc. Vous savez que c'est quelqu'un aussi qui est très très engagé, donc il y a vraiment de très grosses connivences entre ses films et les films qu'elle a choisi pour sa galaxie. Mais par contre, on pourra lui poser des questions aussi parce que elle sera là le 23. C'est la semaine prochaine.
Ah ben oui.
Jeudi 23, la semaine prochaine, donc au Pâté, et on présentera donc Le Goût des Autres, qui est tout frais restauré, mais à peine. Et donc ce sera la première.
25 ans.
Ouais, je crois que c'est ça. Ouais.
Un quart de siècle pour Le Goût des Autres.
Ouais. Et du coup, ce sera la première, ce sera la première mondiale de la restauration du Goût des Autres, et donc en présence donc d'Agnès Jaoui qui sera là, et on fera un petit question-réponse, petite discussion avec le public après le film.
Ben voilà une bonne nouvelle. Alors on fait une petite parenthèse à propos de la galaxie Jaoui, juste pour parler d'une actrice, une actrice américaine qui malheureusement vient de partir. Décidément, le mois de septembre a été lourd en perte pour le 7e art, après Robert Redford et Claudia Cardinale. Oui. Ce mois-ci, c'est au tour de Diane Keaton. Vous avez un film en tête, Franck Lubé, avec Diane Keaton, quelque chose qui vous a marqué?
Moi, j'avoue qu'elle est plutôt, pour moi, elle est plutôt associée à Woody Allen.
Oui.
C'est quand même, ça reste.
Manhattan, Annie Hall.
Ça reste, ouais. Voilà, ça, c'est plutôt. Vous avez d'autres titres là, en fait?
Ah ben oui, mais il y a.
Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, mais c'est vrai.
C'est-à-dire qu'elle a explosé. si on peut dire ça comme sa carrière.
Je dis juste que Manhattan, du coup, il est dans la galaxie. Oui. Il est dans. Je ne sais pas s'il est encore passé.
J'ai fait ma chronique dessus et il passe encore une fois.
Oui, le 4 novembre.
4 novembre, 19h.
Donc on aura le loisir de voir Diane Keaton. Mais c'est effectivement grâce à Woody Allen qu'on a parlé d'elle et le moment où sa carrière a pris une autre dimension, c'est bien entendu avec Annie Hall, puisque ce film était nommé aux Oscars et elle a obtenu l'Oscar de la meilleure interprète féminine pour son rôle. Mais il faut pas oublier qu'elle a été la compagne et épouse de Michael Corleone dans le parrain de Francis Coppola, et elle avait fait avant même d'être devant la caméra de Woody Allen, et elle aura été Kay, donc l'épouse de Michael Corleone, dans les deux autres films. Elle apparaît dans les trois films de la saga du Parrain. Et puis elle est aussi dans les années 80, au début d'ailleurs, elle change complètement de registre, puisque toutes les années 70 c'était avec Woody Allen, il y a eu Woody et les robots, Gary Amour, il y en a eu Manhattan, vous l'avez dit, Annie Hall, il y en a eu une jolie brochette. Ouais. Et en 80, elle est dans Reds. Vous savez, le biopic du journaliste américain John Reed, qui était le militant marxiste et chroniqueur de la révolution russe de 1917, et c'était Warren Beatty qui réalisait le film, et à l'époque, il était son compagnon.
Ouais, exact, exact.
Et puis après, bon, elle a eu. D'ailleurs, pour ce film, elle est à nouveau nommée aux Oscars. Elle n'aura pas l'Oscar pour son rôle de Louise Bryant, mais elle était nommée en tout cas.
Elle était très bien. Elle était très bien dans ce film.
Le film est particulièrement réussi, et ça n'a rien à voir avec l'univers de Woody Allen, bien sûr.
Ah non, parce que là, on est dans le biopic, biopic américain classique. Enfin, c'est vraiment un véhicule à Oscar, Reds.
Oui, Reds. Et puis, c'est moi, j'en ai un souvenir impérissable, quoi. Je veux dire, Warren Beatty, était un bon acteur, est un bon acteur et aussi un bon réalisateur. Alors, elle a été après coup, elle a eu un petit passage, elle était plus vraiment sur les écrans et puis elle est revenue dans une comédie qui avait déjà été adaptée, ça s'appelle le père de la mariée, c'est une comédie de Charles Shire, mais Vincente Minnelli,
on avait fait
la première adaptation, ouais. Mais c'est un bouquin à l'origine.
Ouais, ça fait partie de ce genre, les comédies du remariage.
Ouais, ouais, exactement. Et puis, juste après, elle fait Meurtre mystérieux à Manhattan, avec ses retrouvailles avec Woody Allen, ouais. Et là aussi, ça marche, et c'est une comédie qui pète. Et puis, elle a été dans la comédie romantique de Nancy Meyer. Vous vous souvenez, Tout peut arriver. Son partenaire, c'est Jack Nicholson.
Ah, ça, j'ai pas vu par
là. Ouais, non, c'est une bleuette, comme on aimait les voir à cette époque-là, et qui était plutôt réussie. Alors, ce que je vous propose, c'est de l'écouter, parce que dans Annie Hall, il n'y a pas vraiment de bande originale. Il n'y a pas de compositeur de musique. Il a pas choisi de musique, ni de compositeur. Woody Allen pour son film. Néanmoins, il apparaît quelques passages musicaux, en particulier un où elle, Diane Keaton, interprète une chanson dans un club de jazz. Et c'est cette chanson qu'on va écouter qui s'intitule, que je ne l'écorche pas, Seems Like a Long Time, un morceau, un standard des années 20-30. Une dernière petite chose à propos de Annie Hall. Woody Allen avait écrit le film pour elle, c'est sûr. Mais saviez-vous qu'en fait, Hall, c'est le vrai nom de Diane Keaton. Et en plus, son surnom à l'époque c'était Annie. Et donc Annie Hall, il y a peu d'actrices qui peuvent revendiquer le fait qu'un titre de film soit leur nom et leur prénom.
C'est vrai.
Diane Keaton, et on l'écoute chanter un peu. Dans ce club, c'est exactement ce qu'on entend dans le film.
Seems like old times, having you to walk with seems like it's still a thrill just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day I found.
Joli brin de voix de Diane Keaton, Seems Like a Long Time, tel qu'on l'entend dans le film de Woody Allen, Annie Hall. Et tout de suite, on retrouve notre mécano du cinéma, et tout de suite, avant même de l'entendre, Guillaume Sidom, on regarde un film. Allez, c'est parti.
Ah, voilà. C'est un bon pour
retirer.
Un bon pour retirer un chien au chenil Les Pas Perdus, 57 boulevard des Parloirs, 45 000. C'est ça ? Vous m'offrez un chien ? Mais merci beaucoup, hein, madame. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Comment ça s'entretient ?
Tu l'arroses une fois le matin, je crois.
Ça te fait pas plaisir ? Tu fais une drôle de chien.
Surprise !
Oui, voilà, je suis surprise, non, mais...
Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens, j'ai toujours vécu avec des chiens.
On dirait le chien d'Henri.
C'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race.
Ouais, c'est ma mère aussi qui me l'a offert, celui qui marche plus, là. Et c'est le seul problème avec ces chiens. C'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Mais alors, hein, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Hein, moi, Caruso, il...
Et en plus, le chien s'appelle Caruso. Expliquez-nous tout, Guillaume Sidhomme.
Je vais tout vous expliquer pour le cadeau à Yo-Yo. Pour un air de famille, évidemment, film de Cédric Lapiche sorti sur vos écrans en 1995. Adapté de la pièce de théâtre du même titre, écrite par Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, respectivement Henri et Betty dans le film. Musique signée Philippe Edel, dont le générique du film, que vous entendrez à la fin de ma chronique. César, du meilleur second rôle masculin. Pour Jean-Pierre Daroussin, du meilleur second rôle féminin pour Catherine Froh et du meilleur scénario pour le duo Jaoui-Bacri en 1997. Le drame se niche dans chaque réplique, chaque situation. C'est donc un vendredi soir ordinaire au Père Tranquille, un petit bistrot de la banlieue parisienne avec banquette en sky et table en formica. Et Henri, le tenancier, s'apprête à fermer son établissement. Il attend sa mère, sa sœur Betty, son frère Philippe, accompagné de sa femme Yolande, dite Yo-Yo. Et donc, c'est son anniversaire. Et dans quelques minutes, eh bien, ils iront dîner et boire du vin dans un resto étoilé, du moins. C'est ce qui était prévu. Il ne manque qu'Arlette, la femme d'Henri, et Betty s'interroge. Jean-Pierre Bacri face à Agnès Jaoui dans un air de famille. Rien ne va plus dans le couple et rien ne va aller dans cette soirée.
Il faut dire que dans la famille Ménard, la colère et la mauvaise humeur sont récurrentes.
On s'engueule et on s'aime, on se crie dessus et personne ne se dit je t'aime. Et en ce vendredi soir, l'équilibre déjà bancal de la famille va s'effondrer. Rien ne va, même la remise des cadeaux à Yo-Yo devient donc un motif d'énervement. Yo-Yo, bourgeoise naïve, un peu coincée et étouffée par son mari, ne parvient pas à contrôler ses émotions alors que sa belle-mère vient de lui offrir un chien. Elle ouvre donc un paquet tendu par son mari et confond donc une laisse avec un collier. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien, dit-elle, dans une scène devenue culte. Famille, je vous hais, c'est en tout cas la rengaine que nous entendons clairement dans cette ère de famille. Vacherie, perfidie, non-dit, convenance qui explose, jalousie, ce qui se trame dans la famille Ménard est aussi drôle que profondément pathétique, l'un n'allant probablement pas sans l'autre. Henri, si ça va bien, tu es content, si ça ne va pas, tu patientes, c'est comme ça la vie. Cet art de la réplique qui tue, mise en valeur par une mise en scène claire et dynamique, ne serait évidemment rien sans l'abattage et la complicité visible de la troupe de comédiens chargés de donner vie donc à ces personnages profondément ridicules et profondément humains. Tous étaient d'ailleurs déjà donc sur la scène, je l'ai dit, et c'est une des idées brillantes de Clapiche que de leur avoir redonné leur rôle, car Jean-Pierre Bacri en bougon qui refuse de s'avouer qu'il est finalement capable d'aimer, Agnès Jaoui en femme qui se voudrait peut-être plus forte qu'elle ne l'est, Catherine Froh en belle-sœur à collier de perles et gentillesse nunuche, Jean-Pierre Daroussin en serveur souffre-douleur, Vladimir Yordanov en petit patron suffisant et grossier et Claire Morier en mère vipérine ne sont pas que justes, ils sont aussi hilarants qu'émouvants, réussissant à éviter tout cabotinage ou tout justement de leur personnage rongé par leur rancœur. Je gardais un souvenir joyeux de ce film, hein, sorte de comédie hilarante, mais en revoyant avec plaisir ce film pour le bienfait de ma chronique de ce soir, j'avais oublié l'émotion qui transparaît dans la voix de Bacri, incarnant un homme en manque de reconnaissance et d'amour, notamment dans une scène au cours de laquelle il va tenter de comprendre le départ de sa femme et achève son monologue par un « je suis dégoûté » avec la gorge nouée, retenant un sanglot. Le film repose aussi sur la fragilité des personnages, évidemment, sur cette possibilité de pétage de plomb qui peut surgir à n'importe quel moment. Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Daroussin, Catherine Froh, Vladimir Yordanov et Claire Morier, trois divins comédiens et trois divines comédiennes pour un huis clos familial intense dans lequel il est difficile de ne pas se reconnaître, car oui, nous sommes tous le Henri, la Betty, le Philippe ou la Yo-Yo de quelqu'un. À retrouver donc ce jeudi 16 octobre 19h30 au pâté Louis-Hudson à Toulouse, séance de rattrapage mercredi 12 novembre, toujours à 19h30 dans le cadre du cycle Galaxy Jaoui jusqu'au 20 novembre prochain en partenariat avec l'ouvreuse Radio Présence et la Cinémathèque de Toulouse. Gagnez vos places pour deux personnes en nous envoyant vos noms et prénoms à cinéma@radioprésence.com. Retrouvez toute la programmation sur la cinémathèque de toulouse.com et en Blu-ray et DVD chez Universal. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Musique impeccable signée Philippe Edel pour ce film, cet air de famille signé Cédric Clapiche d'après scénario et ce qui a été aussi au départ une pièce de théâtre signée Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Tiens, qu'est-ce qu'on l'aime, Jean-Pierre Bacri ? Allez, une petite tranche en plus.
Franck, c'est bon.
Désolé, excuse-moi.
C'est qui ce type ? Une garde du corps de M. Castella.
Garde du corps. Comme c'est marrant.
Monsieur Castella, Antoine Bachelet.
Vous savez, il vous a pas fait trop peur. Il m'a surpris, disons. But I don't mind being touched by such a handsome guy. What?
Il dit que ça le dérange pas de... Ça n'a aucun intérêt, franchement.
Oh, 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 oh.
Ah, vous connaissez.
Juanita Banana, Juanita Banana. Oh, si je connais. Oh, alors
ah, ah non, c'est pas Juanita Banana. Ah non, quel dommage.
Elle est énorme.
quel dommage. Chef d'entreprise affublé d'un garde du corps parce que c'est le moment où son...
Il signe un contrat.
Il signe un contrat et c'est...
Gérard Lanvin.
Et oui, c'est important parce que tous les personnages... En fait, c'est... un film choral d'une certaine façon, même si c'est ce personnage qu'on suit en particulier, ce goût des autres là, il y a le garde du corps, il y a le chauffeur aussi, il y a la fille qui est serveuse au bar et puis qui arrondit ses fins de mois en vendant un peu de bœuf, quoi. Il y a
tout ça. Incarné par Agnès Jaoui.
Oui, voilà. Et donc, ce monde-là, c'est le goût des autres. Et là aussi, c'est une belle réussite, ce film.
Ah oui, complètement. Ouais.
Et là, il est réalisé par Agnès Jaoui, alors que Un air de famille, c'est Cédric Clapiche.
Oui. Un air de famille, c'était en fait... donc, Jaoui Bacri avait écrit le scénario. Enfin, la pièce de théâtre d'abord.
Et le scénario
et
ensuite.
Le scénario, et donc là, et après, voilà, il joue.
C'est leur plus gros succès, je pense.
2 500 000.
Le goût des autres, tu parles.
Oui.
Alors oui, ça a été... Non, c'était un truc énorme hein, quand c'est arrivé. Et c'est son premier film, enfin, comme réalisatrice. Vraiment, ouais. Parce qu'avant, elle était plutôt scénariste, quoi. Enfin, actrice. Et scénariste, quoi, parce que c'était le tandem avec Bacri, mais voilà, ils étaient plutôt scénario.
Et dialoguiste aussi.
Et dialoguiste, bien sûr.
Sacré dialogue.
Et
réparti.
Ouais, complètement, quoi. Mais tu sais, elle l'a toujours, hein, quand tu la vois, Agnès Jaoui, quand tu la vois, tu vois ses films, en fait, quoi, parce qu'elle a ses...
Ah oui, elle est vraiment comme ça, ouais.
Elle a de la répartie, elle est cash, elle a des, enfin tu vois, tu vois le goût des autres, c'est Agnès Jaoui.
D'accord.
Enfin, ah non, franchement, ouais, tu sens bien quand même d'où ça vient, enfin de la connaître un petit peu, tu le vois quoi.
Et le film a obtenu 4 Césars. Tout de suite, on va faire un petit tour vers l'actualité. On se tourne plutôt vers l'actualité de la semaine et vous scrutez cette affiche, justement, Laurent, avec l'ouvreuse.
Oui, à l'affiche cette semaine, Chien 51, le nouveau film de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris. Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle nommée Alma a révolutionné le travail de la police jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, 2 flics que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Avec Chien 51, Cédric Jiménez s'attaque à la science-fiction et puis de grande ampleur. Dès l'ouverture, on retrouve l'ADN du cinéaste. Imaginez un fourgon comme ça qui file à toute blinde, qui s'arrête à un checkpoint, une fusillade début et une course-poursuite commence. Tension, rythme imparable, le réalisateur de l'excellent Bac Nord et de la French est dans la place. Il sait tenir une caméra et nous plonge dès le générique dans son Paris futuriste, délaissant sa ville d'origine Marseille, comme il l'avait fait d'ailleurs dans Novembre. Rappelez-vous, c'était ce film sur les attentats de Novembre. Alors, c'est l'autre bonne surprise du film, sa mégapole compartimentée, comme je l'ai dit, en trois zones sociales, est magnifiquement recréée. Rarement, d'ailleurs, une production hexagonale aura affiché une telle ambition visuelle. Il faut dire que le budget est à la hauteur, plus de 50 millions. Les décors sont soufflants et la manière dont la caméra de Jiménez franchit les zones file sur les traces de ses flics ou fonce à travers les dance floors est assez tétanisante. Et ce n'est pas que de l'esbrouf. Imaginez un monde avec vidéosurveillance, drones, état oppressif, individus broyés. Ces obsessions se déploient dans cet univers dystopique un peu trop proche de nous. C'est peut-être ce qui nous attend dans quelques temps. En adaptant le livre de Laurent Godet, Jiménez et son scénariste Olivier Demangel ne gardent que le décor et se débarrassent des sous-intrigues et des thèmes du livre, comme la nostalgie, le broyage capitalistique et la rédemption impossible qui faisaient la richesse du roman. On a parfois l'impression que ce polar futuriste se contente d'aller droit devant, quitte à laisser la profondeur du livre original de côté, mais bon, heureusement, Adèle Exarchopoulos électrise chaque scène, et si face à elle, Gilles Lellouch assure, ben c'est elle qui donne du chien et de l'intensité dramatique au film. Voilà un spectacle solide, visuellement bluffant, même si narrativement inégal. Alors un mot sur le titre, hein, Chien 51. Alors dans le monde imaginé par l'écrivain Laurent Godet, les policiers des zones les plus misérables sont parfois décrits comme des chiens, terme métaphorique pour évoquer leurs conditions subalternes. Et puis 51, ben, ce n'est qu'un numéro, car finalement, l'être humain n'est qu'un numéro. Oui messieurs, nous sommes des numéros. Mais je ne suis pas un numéro, comme disait le prisonnier. Petite revue de presse sur
le
ce
numéro 6.
Numéro 6, ouais. Petite revue de presse, un film français parmi les plus attendus de l'année, Chien 51, tient ses promesses en nous offrant un excellent spectacle qui jette une lumière crue sur les dangers possibles que court le monde en laissant l'IA prendre le pouvoir, selon France Info Culture. Le Figaro a bien aimé aussi Ténébreux et musclé, le long métrage futuriste de Cédric Jiménez a bénéficié d'un budget considérable de 50 millions. Chaque euro se voit à l'écran. Les Inrock n'ont pas aimé. Difficile de voir dans cette quincaille autre chose qu'une bien vieille et maussade idée du futur déglutie pour la énième fois. Libération, ils n'aiment pas du tout. On explique mal ce qui a contraint Cédric Jiménez pour qu'il se retienne à ce point de mettre en œuvre à peu près tout ce qui s'offrait à lui pour faire de Chien 51 un film un tant soit peu désirable. Et si ce n'est qu'il serait peut-être un cinéaste fantastiquement limité dans son imagination. C'est Libération. Hein. Ils n'ont pas du tout aimé, vous l'avez compris. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Deux pianos d'Arnaud Desplechin avec une belle distribution. François Civil, Nadia Tereskiewicz et
Charlotte Rampli,
merci. L'histoire d'un pianiste qui retrouve son amour d'enfance, un film que vous pouvez voir à l'ABC de Toulouse. On peut voir aussi Chronology of Water de Christine Stewart, l'histoire de la jeune Lydia qui peine à trouver sa voie, un film que vous pouvez voir au Grand Palais à Cahors ou à l'American Cosmographe. On peut voir aussi Lumière pâle sur les collines, voilà un joli titre, de Kei Ishikawa, un film japonais. Qu'on peut voir au Régent à Saint-Gaudens. On peut voir Égoïste d'Aishi Matsunaga à l'American Cosmographe. Le jour de Claude Zidi Junior, et oui. On peut voir aussi le film d'horreur de la semaine, ça sera Black Phone 2 de Scott Derrickson. Et puis on peut voir Sacré Cœur, le fameux documentaire dont on a déjà parlé ici, de Sabrina Gunnell et Stephen J. Gunnell. On peut voir ce film Sacré Cœur au Pâté La Beige, au Grand Palais à Cahors ou au Régent à Saint-Gaudens. Et puis vous le savez, les vacances approchent, donc forcément il y a des films pour les enfants. Beaucoup de films d'animation, on peut voir. Pour vous Guillaume, ça vous plaît, vous avez toujours rêvé d'être pompier, ça sera Sam le pompier, nouvelle caserne en plus.
Pompier ou policier.
Ouais. Nouvelle caserne toute neuve.
Oh, d'accord, oui.
Des 3 ans, hein, de Colin Morton.
C'est dans mon âge.
C'est dans votre tranche. Ouais. Jack et Nancy, les plus belles histoires de Quentin Black. Des 3 ans, là aussi, on peut voir ça au CGR, le Paris-Montauban, ou à l'American Cosmographe. Hopper et le secret de la marmotte. Est-ce que ça a un lien avec le peintre, je ne sais pas. Un film d'animation des 6 ans de Benjamin Mousquet qu'on peut voir au CGR à Rodez. La vie de château, mon enfance à Versailles. Un film d'animation des 6 ans de Clémence Madeleine et Nathaniel Ilmi qu'on peut voir à l'ABC de Toulouse. Et on peut voir aussi, ça c'est pas mal, Sylvain Chaumet qu'on avait quitté il y a très longtemps.
Les Triplettes de Belleville, mais avec l'illusionniste.
Et là, il revient avec Marcel et Monsieur Pagnol. Un film d'animation qu'on peut voir dès 8 ans au Pâté Wilson ou à l'ABC de Toulouse.
Yeah.
Un des moments phares de la comédie musicale Hair. Et c'est exactement ce qu'on peut entendre dans cette adaptation qu'on avait faite de Miloš Forman, de cette fameuse comédie musicale Hair. Et on revient à la galaxie Chiaoui, puisque ce film est proposé justement dans cette galaxie-là.
Bah oui, parce que bah, je disais tout à l'heure que Agnès donc, était aussi chanteuse. Et donc elle est et elle a aussi travaillé sur ben, des comédies musicales. Ben, par exemple, on connaît la chanson, hein,
qui ben
est
oui.
le film de René. Alors qui est
c'est entre les deux, hein, puisque les acteurs font du playback. C'est puisque ça. C'est les chansons originales qu'on entend.
Exactement. C'est le côté voilà. C'est peut-être. Alors je sais pas si c'est ça vient de René ou si ça vient d'elle. Tu vois cette idée là. Parce que ça pourrait être aussi une idée de René.
Oui, et, puisque c'est Alain René qui réalise le film.
Oui, c'est René. Ouais, voilà, c'est un film d'Alain René. Et
oui, je crois que ça vient du scénario d'Alain René et de Jaoui Bakri.
Oui, mais le fait de non, mais je veux dire le fait que ce soit, c'est-à-dire que les. Donc, c'est une vraie fausse comédie musicale. Faut pas trop se perdre. C'est une vraie fausse comédie musicale dans le sens où il y a des personnages qui dialoguent, etc. Et puis, il y a des moments où, en fait, qui sont chantés, mais ce sont des chansons en playback. C'est-à-dire que eux chantent. Enfin, c'est du vrai playback. Ils chantent pas. Et ce sont les. Par exemple, c'est une chanson de Johnny.
De France Gall.
Ou France Gall. Ouais, c'est en fait vraiment France Gall qui chante ces morceaux sortis du disque, quoi.
Comme Dussolier qui fait le playback de Vertige de l'amour alors qu'il est en garde républicain.
C'est ça. Ouais. Et donc
Alain Bachung.
Et donc voilà, donc tout ça pour dire que fait, voilà, la comédie musicale, parce qu'il y a Air, mais il y a aussi
Singing in the Rain.
Voilà, chantons sous la pluie.
Chantons sous la pluie. Voilà.
Et donc le musical est quand même très présent dans la galaxie. Mais ça, c'était plutôt évident par rapport à sa filmographie. Voilà, ça fait partie des choses évidentes.
On vous retrouve dans quelques instants. Il y aura encore d'autres surprises dans cette galaxie. Les étoiles tournent, mais il faut savoir comment. Et vous allez nous expliquer tout ça, Franck Lubé. En attendant, tiens, bah c'est le tribunal des séries. Avec notre homme de loi, Grégory Combe, qui passe sur le grill Alice in Borderland.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, ce soir je vais aborder une série que j'apprécie particulièrement, que vous retrouverez sur Netflix, et qui s'appelle Alice in Borderland. Alors Alice in Borderland, c'est une série japonaise qui adapte le manga du même nom, et qui a un scénario plutôt accrocheur et... Souvent, on la compare à Squid Game, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je la trouve supérieure à Squid Game. Donc en fait, ça parle de Harisu, qui est un jeune homme fauché, sans emploi et obsédé par les jeux vidéo. Il se retrouve soudainement dans une étrange version de Tokyo, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, vidé de la quasi-totalité de ses habitants. Et il se retrouve avec deux de ses amis, et ils vont être obligés de participer à des jeux, et des jeux mortels, sinon eux-mêmes sont exécutés. Et donc... Plusieurs questions vont se poser. Déjà, pourquoi ont-ils basculé dans ce monde ? Qui tire les ficelles ? Qui organise ces jeux ? Que se passe-t-il ? Et donc, moi, ce que j'aime particulièrement dans cette série, c'est qu'elle regroupe effectivement tout ce qui marche bien dans ce genre de série à jeu. C'est-à-dire qu'il y a des personnages attachants, beaucoup de retournements de situation. D'ailleurs, c'est très dur de ne pas s'attacher au perso, mais ne vous attachez pas trop, parce que malheureusement, il y a beaucoup de morts, et je ne vous spoilerai pas. Et aussi, on veut savoir qu'est-ce qui se cache, quel est le secret derrière ce monde-là. Alors, je ne vais rien vous révéler, évidemment, de ce secret, mais c'est satisfaisant, c'est même très satisfaisant, parce que souvent, des séries qui sont basées sur des secrets comme ça, terminent sans répondre, ou avec une réponse un peu nulle, hein, on se souviendra tous de Lost, alors que là, ce n'est pas le cas. Une question était restée en suspens, c'est une série qui, pendant longtemps, est restée à deux saisons, et la saison 2 a mené une conclusion assez satisfaisante, et on s'est tous posé la question, pourquoi une saison 3 ? Il faut savoir que la saison 1 et 2 adaptent la totalité du manga. Il y a certes eu un manga complémentaire, mais la saison 3 n'aborde pas cette partie-là. Donc on s'est tous dit, est-ce que c'est pas une redite inutile ? Est-ce que finalement on ne rallonge pas ? Au final, les 6 épisodes complémentaires sont très intéressants, très pertinent. Les nouveaux personnages sont certes un peu moins attachants que certains anciens, mais quand même intéressants. Les jeux sont toujours aussi dingues. Et le personnage principal, qui est toujours Arisu, est toujours aussi attachant. Et on obtient d'autres petites réponses complémentaires. Maintenant, j'ai une peur. J'ai une peur, pourquoi ? Parce que, clairement, on avait une conclusion qui était nickel, et on a à nouveau une autre conclusion qui est assez précise, mais on sent des petites ouvertures. Et est-ce que ça ne va pas être, comme Squid Game, le biais de dire on ouvre sur d'autres pays pour continuer la franchise avec d'autres personnages. Je pense que ça ne serait pas obligatoirement utile. N'étendons pas les choses le plus loin possible. Et pourquoi je préfère cette série à Squid Game ? Alors, je la préfère parce que déjà, j'aime bien les séries fantastiques, je ne vais pas vous mentir. Et je la préfère aussi parce que je trouve que les thèmes abordés et les personnages décrits sont plus attachants que dans Squid Game. Attention, j'adore Squid Game, j'ai dévoré les saisons, mais je trouve Alice in Borderland bien supérieur, mieux joué et mieux filmé. Et je vais même vous dire, en fait, il ne faut pas les comparer, car certes, ce sont des séries télé basées sur des jeux et des jeux cruels, mais la comparaison s'arrête là. On en a une qui est purement ancrée dans le réel, et une autre qui est plutôt fantastique, Alice in Borderland. Donc, au final, vous avez vu mon avis. Oui, c'est une excellente série. Oui, les trois saisons se regardent ultra rapidement, sont ultra rythmés et racontent des choses qui sont prenantes. Donc moi, je vous conseille fortement de regarder Alice in Borderland. J'espère juste que Netflix va savoir conclure et ne va pas réouvrir encore une fois la franchise alors qu'elle n'en a pas besoin. Donc, chers auditeurs et auditrices, votre temps est précieux. Je vous conseille de le dépenser devant Alice in Borderland.
Vous l'avez compris, vous savez ce qu'il vous reste à faire quand vous n'allez pas au cinéma. Vous êtes devant votre télé, Netflix, Alice in Borderland, et vous entendrez cette musique signée Yutaka Yamada, puisque c'est lui qui a composé la BO de cette série. Ce qu'on aime avec l'ouvreuse, c'est le grand écart. Vous allez comprendre. C'est ça, passer de Yutaka Yamada à Nicola Piovani, c'est ça le grand écart. Hein. Et Nicola Piovani a composé la musique du film de Federico Fellini, Ginger et Fred. Ça aurait dû être Nino Rota. Manque de bol. Il venait juste de décéder. Alors Fellini a pris Nicola Piovani. Mais on y est quand même. Hein. Et Ginger et Fred... c'est un bien beau film avec deux acteurs proprement formidables, à savoir Giulietta Massina, Amelia Bonetti alias Ginger et Marcello Mastroianni, Pippo Botticella alias Fred, parce que ils ont connu leur heure de gloire. Ah, quand ils étaient jeunes et beaux, ils faisaient des numéros de claquettes de danse tous les deux ensemble, et puis c'était évidemment Ginger pour Ginger Rogers et Fred pour Fred Astaire. Et puis alors, on veut faire une rétro les concernant, et c'est une émission de télé, alors que les années ont passé, c'est pas la même ambiance et ça marche pas du tout de la même façon. Et Fellini, la traite comme il a toujours considéré la télé, c'est-à-dire bien mal. Et vous pourrez voir et redécouvrir ce film fabuleux dimanche 19 octobre à 18h20 au cinéma VO de Muret. Et puis alors on va aller rapidement. Une avant-première, c'est une avant-première, tenez-vous bien, parce que le film va avoir droit à une ressortie nationale, puisque là aussi c'est une copie numérique. Ce film, c'est Conversations secrètes de Francis Ford Coppola. Alors c'est pour demain, jeudi 16. Vous irez au Pâté Wilson à 19h45 si vous allez vous préférez aller à la Beige, 19h30 le film, bon ben il est pas présenté, c'est un film extraordinaire. Gene Hackman, John Cazale, Alan Garfield, quelques-uns d'entre eux étaient dans Le Parrain, ils se retrouvent là, vous voyez, ben, c'est Francis Coppola, hein. C'est la famille, hein, c'est le cas de le dire. Et puis, le film a obtenu la Palme d'Or. Il était pressenti pour un Oscar, mais et on l'a donné à un autre film de Coppola. C'est Le Parrain. On l'a préféré le donner au Parrain. Bon, vous savez, tout se passe. C'est la famille. À l'American Cosmograph, Lenny de Bob Fosse. Ah, ça aussi, c'est un grand film de 74 avec Dustin Hoffman qui interprète le rôle de Lenny Bruce. Probablement le premier stand-upper de l'histoire. Et le film décrit la carrière montante et surtout la chute terrible du personnage. Dustin Hoffman est extraordinaire. À ses côtés, il y a Valérie Perrine, fabuleuse comédienne qui, pour ce rôle-là, en 74, avait obtenu l'Oscar de la meilleure interprète féminine. Et puis, on finira notre tour d'horizon avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Bah, y a Nouvelle Vague de Richard Linklater. Pourquoi pas en profiter pour aller voir le film? C'est ce qu'on s'est dit à l'ABC. Et donc, c'est l'ABC qui vous propose d'aller le voir. C'est une séance spéciale dimanche 19 octobre à 18h. Vous irez voir le film de Linklater avant ou après, comme ça vous comprendrez. Tout sera mis en abîme et en perspective, et comme vous irez aussi revoir la sociale Vive la Sécu de Gilles Perrin, film de 2016, c'est un documentaire, lui, est toujours proposé par l'ABC, c'est pour demain, jeudi 16 octobre à 20h45. Et puis, il y a la galaxie Jaoui, mais il n'y a pas que la galaxie Jaoui chez la Cinémathèque, en tout cas chez le Musée des Abattoirs, il y a Remake avec deux films formidables, La Rue Rouge et Blowout. Parler de ces films, on en dira un mot, mais on va laisser notre ami Laurent parler de ces films à voir à la télé.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès jeudi sur France 4 à 21h avec La Nuée de Juste Philippot. Il n'y a pas de prénom, c'est juste Philippot. L'histoire de Virginie qui tente de se reconstruire dans un projet audacieux.
Vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Moi, je ne peux pas. Un élevage de sauterelles. Je crois que Guillaume avait essayé, ça n'a pas marché.
Ouais, ouais. L'élevage de sauterelles ou juste le prénom, d'accord.
La Nuée, horrifique.
Ouais, un premier film au scénario surprenant qui mêle habilement le drame social et l'horreur. Vraiment à découvrir. Puis vendredi 21h sur Gulli, la chaîne des petits, on pourra voir les Goonies. De Richard Donner, 85, Joss Brolin, Sean Astin, histoire de bande d'enfants qui vivent des aventures aussi folles et vont lutter contre des promoteurs qui veulent tout raser. Steven Spielberg à la production, excusez du peu, et voilà, un film culte, hein, on peut le dire.
Oh bah oui.
À voir ou à revoir. Samedi, France 4, 21h, Les Contes de Terre-Mère, un film d'animation de Gorō Miyazaki, qui est le fils de Hayao, bien sûr. L'équilibre fragile qui régit Terre-Mère est menacé. Une ombre grandissante s'étend sur les royaumes. Face à cette crise sans précédent, une lueur d'espoir subsiste. Macron, le Mozart de la finance, je me trompe de chronique, c'est Épervier, le plus grand des magiciens qui va peut-être sauver Terre-Mère. Voilà, un très beau film qui propose des dessins d'une grande finesse, des décors superbes, une belle histoire, vraiment à découvrir. Dimanche, Arte, 21h, ce sera un petit western, messieurs. L'Appât, un film d'Anthony Mann de 1953 avec James Stewart, Janet Leigh et Robert Ryan. Une traque sans merci s'engage pour capturer un hors-la-loi cynique et redouté, recherché pour le meurtre d'un shérif. Voilà, c'est classique, mais un western captivant et somptueux dans lequel James Stewart livre comme toujours une belle performance. Le conseil de lecture, ce sera, on va rebondir dessus, Les Mondes de Hayao Miyazaki, les influences et inspirations derrière les films cultes, un livre de Nicolas Rappeau. Mon voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, toutes ces œuvres sont autant de films inoubliables qui ont captivé le public du monde entier. Que vous soyez fan ou cinéphile, vous découvrirez dans ce livre un riche mélange des influences culturelles, historiques et artistiques de cet immense artiste. Un livre que vous retrouvez chez Inis Éditions pour la modeste somme de 39€. Tenez, Franck, je vous l'offre. Voilà pour le cinéma et la télévision.
Merci.
Cette semaine.
Merci à...
Bon, Bon, il y a les Américains qui font les comédies musicales, mais les Français, on sait faire ça. Hein, pour un film qui n'est pas vraiment une comédie musicale, mais la musique est signée Michel Legrand, on reconnaît la patte du monsieur, et derrière la caméra, pardon, c'est Jacques Demy, c'est Podane. Ah oui. Et Podane est extraordinaire.
Dans la galaxie hein, aussi. Hein.
Ben oui, voilà. C'est pour ça que vous parliez de...
Oui, de la comédie, des comédies musicales, c'est vrai que là on est aussi le côté chanté et enchanté, effectivement, enfin enchanté, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme pour Podane, mais quand même un film extraordinaire.
C'est le moins qu'on puisse dire, avec des acteurs formidables. Podane, c'est Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve, hein.
Son popo, c'est Jean Marais.
Jean Marais, ouais.
Jean Marais, c'est une formidable distribution que voilà, et elle va se cacher. Parce que son père veut en faire sa femme.
Ouais, exactement.
Oh,
c'est pour ça quand je dis enchanté, c'est ouais. Enfin, voilà, c'est pas c'est mais ceci dit, les contes sont toujours
ben oui,
il y a toujours une part de cruauté,
ouais. Un peu ça rappelle l'enfant de la Belle et la Bête.
Enfin, c'est ben complètement, et surtout ouais. Jean Marais.
Jean Marais,
la bête, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est tout ça.
Juste un petit tour d'horizon sur la distribution.
Oui.
On a parlé de Jean Marais, on a parlé de Catherine Deneuve, mais il y a aussi Delphine Seyrig qui joue la Fée des Lilas. Oui. Il y a Micheline Prel qui fait la Reine Rouge. Fernand Ledoux, le Roi Rouge. Pierre Rep. Sacha Pitoëf, Henri Crémieux. C'est luxueux. Une extraordinaire distribution française.
Grande distribution,
On parlait des comédies musicales. Bon, inévitablement, il faut qu'on écoute ce début. On en a déjà parlé, mais juste pour entendre les bruits de l'eau. Voilà, ben, chantons sous la pluie, hein.
Ça donne tout de suite envie de le revoir.
Ouais,
c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment le truc. On l'entend le début là, et c'est tout de suite.
C'est extraordinaire. On voit Gene Kelly sortir, lever les yeux au ciel. La pluie tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ferme son parapluie et il laisse tomber la pluie sur lui. Et il se met à chanter et après il va sauter dans les flaques, exactement ce qu'on rêve de faire quand on est môme et qu'on fait plus quand on est adulte. Et c'est une belle histoire qui se passe dans les années 20, au moment où il y a la transition avec...
Ça, c'est la fin des années 20.
Le cinéma muet, le cinéma parlant, lui est une vedette, il est le compagnon d'une femme, d'une jeune femme qui est une vedette elle aussi, seulement elle a une voix de crécelle.
C'est ça. En fait, c'est vraiment ces histoires qui sont arrivées au moment du passage du muet au parlant. C'est The Artist.
C'est exactement ça.
C'est le même. On est sur la même période, quoi. C'est la même trame. De comment on passait. Beaucoup d'acteurs du muet qui étaient des stars avaient, quand le parlant est arrivé, leur voix ne passait pas.
Non.
Et du coup, ont perdu leur job.
Sauf que dans le film, c'est une jeune actrice qui prête sa voix à la crécelle. Et cette jeune actrice, c'est Ginger Rogers. Alors, on parlait de Ginger et Fred. Et là, c'est la bonne, c'est Ginger Rogers.
Pour aller voir Ginger et Fred, le Fellini, il faut aller voir.
Chantons sous la pluie. Gene Kelly, et puis Donald O'Connor, ils sont trois.
Ouais.
Moi, ce qui me fascinait, c'est quand ils étaient dans leur salon et qu'ils sautaient tous les trois ensemble sur le canapé et ils balançaient le canapé tous les trois ensemble. Ouais. C'est extraordinaire.
Vous avez essayé à la maison, ça n'a pas marché.
Non. Rapidement, parce qu'il nous reste à peine une toute petite minute. Il n'y a pas que les comédies musicales. Il reste encore. On a déjà parlé des Sentiers de la Gloire, mais il y a aussi dans la galaxie Jaoui l'homme qui tue à Liberty Valance.
Oui, l'homme qui tue à Liberty Valance, qui est un John Ford génialissime. C'est un film qu'il faut voir. faut que tout le monde l'ait vu. Obligé de le voir. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Il y a la règle du jeu aussi.
De
Jean Renoir, qui est pareil, film magistral.
Conspué par le public, hein, par la critique à l'époque.
Ah oui, il n'a pas été bien reçu. Hein. Mais c'est vraiment un pur chef-d'œuvre.
Et. Rendez-vous, The Shop Around the Corner.
Shop Around the Corner de Lou Beach. De toute façon, Lou Beach, c'est tout est bon chez Lou Beach.
Oui.
C'est, pour moi, c'est un de mes cinéastes fétiches. Donc, c'est pas le plus connu, mais c'est pareil, c'est quand même, c'est toujours très très bon, quoi.
Il y avait eu un remake que vous auriez pu passer, mais comme le film est pas extraordinaire, on comprend bien pourquoi vous ne l'avez pas choisi.
Non, c'est Lou Beach.
Oui, ça reste Lou Beach. Il y avait eu, vous avez reçu un message, je crois, avec Tom Hanks et Meg Ryan.
Je savais même pas.
C'est l'histoire de la librairie, pareil, le coin de la rue. Mais c'était raté. Voilà. On pourrait encore rester une heure avec vous, Franck Lubet, mais on arrive au bout de l'émission. Il est temps, messieurs, que vous donniez vos coups de cœur.
Les coups de cœur, ce sera pour Chien 51, Lumière pâle sur les collines, le film japonais, et La Galaxie, Jaoui, à la Cinémathèque, à ne pas manquer.
Chien 51, deux pianos, Marcel et Monsieur Pagnol, le film d'animation de Sylvain Chaumet, La Galaxie, Jaoui, gagnez vos places, cinéma@radioprésence.com, et puis le cycle remake aussi au Patty Wilson qui continue.
Abattoir.
Aux abattoirs. Pour moi, c'est comme vous. Chien 51, deux pianos, Marcel et Monsieur Pagnol, La Galaxie, Jaoui. Et plein de choses encore. Merci encore, Franck Lubet.
Merci à vous.
Merci à vous, messieurs.
Et bon anniversaire, Louvreuse.
Oui. Et juste ça, parce que Daroussin et Yo-Yo dansent là-dessus. Salut.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que